Chapitre 11. Tel un spectre revenu du royaume des morts, Janice Dern navigue entre les poches d'ombre et les cratères de lumière dessinés par les lampes en forme de cône accrochées à la poutre maîtresse sans faire grincer le contreplaqué sous ses semelles. Des cartons empilés sur près de 2 mètres de hauteur forment un labyrinthe poussiéreux, meublé par une multitude de toiles d'araignées qui se balancent doucement sous l'effet des courants d'air. Janice garde la main droite posée sur la crosse du pistolet, enfouie dans un étui à sa ceinture. Laurie a très bien pu abandonner ses ciseaux sur la commode, parce qu'elle a trouvé une arme plus efficace. L'une des tables de nuit de ses parents dissimulait peut-être un pistolet. À 12 ans, elle ne devrait pas savoir se servir d'une arme à feu, mais par les temps qui courent, les parents irresponsables sont légion. Et il n'est pas impossible que cette sale petite conne soit capable de se mettre en position de tir et d'anticiper les effets du recul. À chaque carrefour, entre 2 piles de cartons, Janice fait preuve de la plus grande prudence, jusqu'à ce qu'elle découvre un escalier métallique en colimaçon menant à une redoute perchée dans les hauteurs de la maison. Elle comprend immédiatement que l'adolescente s'est réfugiée là-haut. Elle n'a pas fui la maison, car elle savait disposer d'une cachette intéressante. Par sa situation, parce qu'elle recèle une arme quelconque, ou bien encore... « Un téléphone !» s'écrie-t-elle à voix haute. « Putain de merde !» Janice se rue dans l'escalier en colimaçon, telle une balle dans le canon d'un fusil. Elle découvre une petite pièce entourée de fenêtres, offrant une vue à 360 degrés sur la nuit. Un téléphone est posé sur une étagère entre 2 fenêtres, mais le belvédère est vide. Sous l'effet d'une violente bourrasque, les vitres se mettent à trembler. Un tourbillon de poussière, de paille et de feuilles mortes s'élève au niveau du toit. Une lumière aveuglante troue l'obscurité en éclairant violemment la petite pièce. Les ombres des croisées entament une danse grotesque à travers l'espace. Un instant perdu, Janice comprend rapidement qu'un hélicoptère équipé d'un projecteur frôle la maison avant de se positionner en vol stationnaire au-dessus de l'escalade qui bloque l'allée. Dans le cône de lumière, Sally Jones lève la tête et adresse de grands signes aux occupants de l'appareil, persuadée d'avoir affaire à des renforts dont on aurait oublié de lui annoncer l'arrivée. Cette petite salope de garçon manqué, cette sale gamine fourbe, s'est servie du téléphone pour appeler les secours. Il ne peut pas s'agir du shérif puisque l'hélicoptère n'est pas orné d'un sigle étoilé. Mais quels que soient ces connards, ils ont cru cette petite mangeuse de crottes de nez et se sont précipités à sa rescousse avec la fougue d'une brigade de Texas Rangers. Le même fiasco que la veille, au ranch des Hawks, lorsque Godfrey et ses équipes se sont fait damer le pion par ce fils de pute de Juan Saba. Janice se souvient brusquement d'avoir fourni à Laurie Lundgren de précieux détails sur les implants cérébraux et la façon dont les nanomachines tissent leur toile dans la tête de leurs victimes. À part Jane Hawke, qui a réussi à percer le secret du complot, les Arcadiens veillent jalousement à ne jamais parler de cette arme imparable. Janice, soucieuse de terroriser cette petite peste avec ses taches de rousseur, était si bien persuadée de pouvoir lui injecter un implant cérébral qu'elle a tout expliqué à cette putain de gamine. Il est urgent de lui mettre la main dessus.